parole du jour avec le Père Willem.
Fonder une famille. Il importe de reconnaître ces valeurs que nous avons évoquées dans notre émission d'hier. Ce sont des valeurs partagées par les hommes et les femmes d'aujourd'hui, et de tenter d'aller un peu plus loin avec eux, partant de ce qu'ils vivent comme première pierre d'évangélisation. Avec ce double arrière-fond, celui de certaines valeurs actuellement vécues, et celui d'un idéal de la famille renvoyant à l'idéal du mariage chrétien, que nous allons poursuivre notre réflexion. Au regard de la réalité, nous aimerions comprendre et proposer quelques pistes pour penser la famille et la famille chrétienne d'aujourd'hui. Quelles sont ses chances et ses richesses? En effet, la tentation est grande de parler de la famille uniquement en termes négatifs. Natalité frileuse, accroissement des divorces, raréfaction des mariages. L'Évangile ne permet-il pas de redécouvrir les valeurs qui sont aujourd'hui vécues? Une famille soucieuse de l'épanouissement de chacun de ses membres, y compris les plus faibles. Son mystère enfin met l'accent sur l'amour, ainsi que sur l'égal souci de tous. L'honneur tribal, aux normes si rudes, est dévissé de son piédestal. Le goût du bonheur l'emporte. N'est-ce pas rien? Au-delà des difficultés, la famille reste de nos jours un réel lieu de créativité, d'engagement, celui d'une compétence de tant d'hommes et de femmes qu'il s'agit tout simplement de soutenir et d'aider. Un des traits importants liés de nos jours à la famille est un rapport quasi généralisé à l'inquiétude. Si nous nous trouvons effectivement dans une période de mutation et des divorces nombreux, entre parenthèses, 40% des mariages, chiffre ayant quadruplé en 40 ans, faut-il pour autant tout dramatiser? Non, certes, car invitation est aussi faite de souligner ce qui, dans les familles, surgit comme une source de croissance. La tendance contemporaine a incité sur les sentiments, sur l'affectivité, peut concourir à davantage d'attention à l'autre et de respect, être touché pour autant que cela ne conduise pas à un repli subjectif, c'est un facteur d'attention et de respect de l'autre. Des modifications législatives prennent en considération la femme par une plus grande égalité des sexes. Le travail de la femme assure contre les aléas de la vie et contribue à un plus grand bien-être économique de la famille, pour autant que cette dimension économique ne soit pas excessivement valorisée. 45% des femmes étaient dans le marché du travail en 1995, 56% en 2009. Constatant également l'importance à ces nouvelles confiées aux droits de l'enfant. Dans un contexte de fragilité économique, les liens intergénérationnels sont également soulignés. Si les grands-parents peuvent jouer un rôle dans le soutien de leurs petits-enfants, ils se trouvent également soutenus par leurs enfants plus jeunes, certes avec le risque d'une génération sacrifiée, celle de l'entre-deux. Jacques Arène met en évidence ces nouvelles dimensions. La famille permet de créer ou de recréer ce lien nécessaire entre les deux niveaux de l'intime et du social. Elle peut être une véritable ressource en tant que protection dans une certaine dégradation sociale. Outre le soutien économique, elle reste le lieu d'un apprentissage de l'amour, mais aussi des conflits qui peuvent devenir occasion de croissance, laisser place à l'altérité, au temps, à la différence. Bien sûr, des contextes de précarité sont réels, les drames du divorce avec toutes les séparations en corrélées, celles des enfants, les séparations sociales, économiques, etc. La précarité affective et économique de certaines familles recomposées, la solitude des femmes abandonnées devant élever seules leurs enfants, la solitude d'enfants économiquement comblés, mais les parents sont trop occupés par leurs charges professionnelles. Dans ces souffrances de famille apparaissent aussi l'affrontement à la maladie, particulièrement avec l'allongement de l'espérance de vie. Le drame de couple ne pouvant avoir d'enfants et qui espère un remède à la stérilité. Mais la famille reste certainement le premier lieu où il est possible d'expérimenter l'amour, cette force dont tout humain a besoin. Une force qui doit être soutenue par la société. L'amour, caritas, sera toujours nécessaire, même dans la société la plus juste. Il n'y a aucun ordre juste de l'État qui puisse rendre superflu le service de l'amour. Celui qui veut s'affranchir de l'amour se prépare à s'affranchir de l'homme en tant qu'homme. Il y aura toujours de la souffrance qui réclame consolation et aide. Il y aura toujours de la solitude. De même, il y aura toujours des situations de nécessité matérielle pour lesquelles une aide est indispensable dans le sens d'un amour concret pour le prochain. L'État qui veut pourvoir à tout, qui absorbe tout en lui, devient en définitive une instance bureaucratique qui ne peut assurer l'essentiel dans l'homme souffrant. Tout homme a besoin donc le dévouement personnel plein d'amour. La famille au hit parade des valeurs européennes, celle qui ne fait pas exception à la mise en valeur de l'individu et de la subjectivité comme lieu de bonheur et d'épanouissement, sera considérée maintenant sur le plan chrétien. La famille chrétienne est-elle réellement lieu de croissance pour tous ou simplement lieu de passage qui fait du bien, un lieu ressource pour les individualités, une sorte de self-service? Pour reprendre l'horizon de et le comprendre, cet horizon de la question, on peut se rapporter à un ouvrage de Gilles Lipovetsky de Grenoble, qui analyse les valeurs contemporaines. « Loin d'être une fin en soi, écrit-il, la famille est devenue une prothèse individualiste, une institution où les droits, où les désirs subjectifs l'emportent sur les obligations catégoriques. Longtemps, les valeurs d'autonomie individuelle ont été assujetties à l'ordre de l'institution familiale. Et cette époque est révolue. La puissance décuplée des droits individualistes a dévalorisé toute l'obligation morale du mariage que celle de procréer un grand nombre. Les parents se reconnaissent certes des devoirs envers leurs enfants, pas au point toutefois de rester unis toute leur vie et de sacrifier leur existence personnelle. Telle est la famille post-moraliste que l'on construit et reconstruit librement le temps que l'on veut, comme l'on veut. On ne respecte plus la famille en soi, mais la famille comme instrument d'accomplissement des personnes. Face à ce constat, que peuvent nous redire l'Évangile et l'Église ?